Donc, on est content d'être avec vous aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, on est dans Acte 28. C'est une lecture suivie qu'on a eue. Je n'ai pas la date exacte, mais ça a dû prendre 2 ans, certains. À Sainte-Foy, là, on a fait l'étude des Actes. Puis je suis certain que dans les derniers mois, années, Guillaume et Jean-Paul, entre autres, sont venus, puis ils ont fait des messages dans les Actes, je suis pas mal certain. Puis d'ailleurs, je pense que Jean-Paul est venu il n'y a pas si longtemps. Puis j'imagine qu'il a fait un message dans Actes. C'est sous toute réserve, là. Fait que c'est le chapitre 28, donc on finissait à Sainte-Foy. Le livre des Actes, la semaine passée. Puis on va commencer Éphésiens le dimanche, là, donc après. Donc, pendant que vous tournez dans Acte 28, le titre que je mets ce matin au passage, c'est « Mission accomplie ». Mission accomplie, parce que, c'est la fin du livre des Actes, mais c'est parce que Paul est enfin arrivé à Rome, puis c'est dans les derniers chapitres, qui s'étendent sur quelques mois, là, dans le passage, Paul est en direction de Rome. Donc, mission accomplie, parce que Paul est effectivement, se rend à Rome au chapitre 28. Puis c'est tout le temps important de faire un petit contexte quand on ouvre la parole de Dieu. Là, je suis certain que les gens qui viennent ici le font. Plus c'est un court passage, plus c'est important. Mais là, on a un chapitre au complet, mais quand même, il faut savoir à qui ça s'adresse, à qui le Seigneur s'adresse, ou à quelle la personne qui est dans le passage s'adresse, tout ça. Donc, c'est tout le temps important d'avoir le contexte. Fait que je prends quelques instants pour vous resituer un peu là, avant qu'on lise le acte 28. Comme je disais, Paul, ça fait quelques années qu'il est prisonnier. Il a été faussement accusé par les Juifs de Jérusalem, surtout pour 3 choses. Ils l'accusent d'avoir profané le temple, d'être contre la loi des Juifs, puis d'être même quasiment contre les lois romaines, de chercher des rébellions, puis tout ça. Fait que les Juifs de Jérusalem, c'est ce qu'ils cherchent à accuser Paul, mais ils sont incapables de prouver quoi que ce soit contre Paul. Puis, sauf que même si les gouverneurs, tout ça, qui auraient le pouvoir de le libérer, ne libèrent pas Paul parce qu'ils ont comme une pression. Il y a la pression des chefs religieux, puis eux autres, ils savent, un peu comme Ponce Pilate, c'était pareil, hein, s'il y a du trouble, ils se révoltent, ils perdent leur job direct, ces gouverneurs-là. Fait qu'ils sont comme entre l'arbre et l'écorce. Fait que, tu sais, pour préserver leur carrière, souvent, ils ne feront pas d'action contre ça. Fait que, donc, même s'ils savent que Paul semble innocent, ils ne vont pas le libérer à cause des pressions qu'ils ont. À cause de ça, Paul en a appelé à César. Donc, c'est pour ça, dans nos passages, il est encore en route vers Rome, puis il va y arriver dans notre passage. Puis à la fin du chapitre 27, on va lire les derniers versets du chapitre 27, ils sont en naufrage. Ils sont en bateau, puis ils vont faire vraiment un naufrage. Puis le chapitre 28 va commencer avec ça. Donc, verset 41 du chapitre 27. « Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire, et la proue s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. » Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein et leur donna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on va lire le chapitre 28. C'est un long passage quand même, c'est un chapitre au complet. Généralement, c'est des fractions de chapitres, là, donc c'est 31 versets. Je vais prendre une gorgée d'eau avant, puis sans doute après. Donc voilà, lisons le chapitre 28. « Une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'il avait allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut en nous logea et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Diosures. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Reggio, et le vent du midi s'étant levé, le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Pouzol, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer dans un domicile particulier avec un soldat qui le gardait. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Ils lui répondirent, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit de mal, du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. » Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, « Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. » Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachant donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. » Voilà le passage qu'on a devant nous aujourd'hui. C'est quand même, c'est une histoire. Il y a beaucoup de versets, mais c'est quand même, c'est une histoire qui se tient. Puis, la première chose, c'est qu'on apprend qu'ils sont naufragés sur l'île de Malte. Puis, une des choses qu'on entend au début, c'est « Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune ». C'est un peu ironique, là. Ceux qui sont appelés barbares, finalement, sont très, très aimables. Mais il faut savoir que les Grecs, à cette époque-là, appelaient barbares tous ceux qui ne parlaient pas grec. Parce que ce n'est pas des, tu sais, entre guillemets, c'est pas des sauvages, on va dire. C'est pas du monde pas civilisé, qui blasphème et qui frappe tout le monde, là, visiblement. Ils ont une très bonne attitude. Enfin, d'un point de vue des Grecs, on serait des barbares parce qu'on ne parle pas grec. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Puis, parce que, comme je disais, finalement, ils sont très bienveillants et très aimables. C'est des gens qui sont civilisés. On le voit, ils sont très romanisés aussi. Là, on le voit, il y a un fonctionnaire romain qui s'appelle Publius. Il y a un port qui est important qui est là aussi. Puis, c'est un peuple qui est d'origine phénicienne. Là. Mais on se rend compte très rapidement que... Puis, en fait, dans l'histoire, il faut se souvenir, les gens sont 276 personnes. Ils sont dans l'eau. Certains vont nager jusqu'au bord. D'autres sont pris sur des débris. Là, il pleut, on l'a lu, il fait froid, il pleut. Imaginez-vous une journée d'automne, là, vous sortez, peut-être que la Méditerranée est peut-être un peu moins froide que notre fleuve, mais ça ne devait pas être chaud. Il pleut, puis il fait froid. Là. Fait qu'imaginez-vous une journée d'automne, vous sortez de l'eau. Là. Puis, ces barbares-là, là, ces habitants de l'île, ils en prennent soin. Fait que ça, c'est vraiment, déjà là, c'est un exemple pour nous de comment montrer de l'amour à notre prochain, parce qu'ils ne sont pas 5-6 personnes, là, ils sont 276. Parce qu'on l'a vu un peu plus tôt, puis toutes ces personnes-là, Dieu avait dit à Paul, « Prends courage, je te donne ceux qui sont avec toi. » Fait que ces personnes-là, ces habitants-là, vraiment, ça, pour l'amour envers le prochain, ça peut nous faire réfléchir. Là. C'est des gens qu'ils ne connaissaient pas, puis ce n'est pas une clientèle facile non plus. Il y avait des matelots, des soldats, puis des prisonniers. dans les 276 personnes. Fait que quand même que les habitants prennent en charge ces personnes-là, c'est déjà un bel exemple pour nous, déjà en commençant. Pour la suite, là, vu que c'est un long passage, je propose deux parties au passage. La première partie, c'est la suite du voyage et du naufrage. Puis la deuxième partie, c'est Paul qui est à Rome. Puis c'est à peu près moitié-moitié les versets. Là, Paul, enfin, va arriver à Rome. Donc, la première partie, la suite du naufrage et du voyage, comme je disais, les 276 personnes, donc des soldats, des matelots, des prisonniers, arrivent enfin sains et saufs sur l'île de Malte, mais sont en risque d'hypothermie. Donc, ils ont passé une couple d'heures peut-être dans l'eau. Fait pas beau, fait froid, comme je disais. Puis là, une des premières choses qu'on voit caractéristique de Paul, c'est que déjà, lui, il a subi la même chose que les autres. Paul, il n'est pas un surhomme au sens où il n'a pas eu froid, puis il est bien dans tout ça. Est-ce qu'il nageait ou il était sur un débris, on ne sait pas. Mais une des premières choses qu'on voit de Paul, c'est qu'il participe avec les habitants à ramasser du bois pour le feu. Fait quand même, c'est quand même déjà une caractéristique aussi qui est attendue des chrétiens, mais que Paul met en exemple certainement. Déjà, lui, il veut participer à ça. Puis là, il se fait mordre par une vipère. Puis les habitants de cette île-là nous montrent quand même le cœur humain. Là, comment qu'on est prompt à regarder ce qui frappe les yeux. Parce que là, eux autres, ils se disent, tu sais, ils étaient réchappés de l'eau. Puis la justice, c'est comme une façon de c'est comme là qu'ils disent, ah, ma bonne étoile ou la vie. C'est comme déifier un peu la justice avec un, dans ce cas-ci, c'est comme païaniser un peu la justice. Là. Mais ils disent, ils étaient sauvés de l'eau. Il arrive, il ramasse du bois, puis il se fait mordre par une vipère. Donc, ça promet le pire de la gang. Là. C'est un bandit, lui-là. Là. Puis là, comme il arrive rien à Paul, ils vont changer d'idée. Puis ils vont dire, ah, bien, il s'est fait mordre. Il ne meurt pas. Donc, c'est un dieu. C'est quand même impressionnant comment le cœur humain de l'homme est. C'est pas la première fois dans le livre des Actes qu'on voit ça. Mais tu sais, la pensée qu'il y avait, c'est vraiment un bandit. Puis finalement, bien, c'est un dieu. Fait que le cœur humain, il change facilement d'idée. Mais pour sa part, Paul, lui, il n'a pas de stress parce qu'il s'est fait assurer par un ange peu de temps après, dans un chapitre précédent, que non, tu vas aller à Rome. Malgré le naufrage, tout ça, ça va mal aller, mais tu n'en perdras personne des 276 qui sont là, mais tu vas aller à Rome. Fait qu'il ne semble pas avoir aucun stress d'un point de vue de Paul, en tout cas, certainement. Puis là, on voit, vous allez voir le parallèle que je fais avec la vipère, j'y reviens, mais juste avant, parce que je vais mettre deux choses en parallèle. On a vu aussi qu'il y a un riche fonctionnaire qui s'appelle Publius. Puis, il en prend soin pendant 3 jours, quand même, il devait avoir une belle maison pour loger 376 personnes pendant 3 jours. Il va avoir un grand salon, probablement. En tout cas, c'est un grand propriétaire, certainement. Puis on va lire les versets 8 et 9. Le père de Publius, donc qui est ce fonctionnaire romain-là, était au lit malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'était rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Paul, il va guérir le père de Publius, puis c'est pas, tu me donnes une bonne action, donc je te paye en faisant ça, c'est pas comme ça que les miracles fonctionnent à l'époque, mais il va quand même être reconnaissant, puis il va guérir le père de Publius, ce qui fait qu'il y a plein de monde qui vont venir après ça, puis Paul, puis Luc est là aussi, fait qu'il y a eu certainement des miracles de Paul, mais Luc est médecin, fait que probablement qu'il participe aussi à certaines guérisons, puis certaines choses de souffrance des gens de l'île qui viennent vers Paul. Mais, tu sais, le fait d'avoir été mordu par une vipère, puis qu'il n'y a pas de conséquences, il fait des guérisons, tout ça, il fait des miracles. On l'a évoqué tantôt, justement. Ces miracles-là, ça sert à authentifier un messager. Ça sert à authentifier que Paul, ben, c'est un messager de Dieu. Comme le Seigneur Jésus disait, si vous ne croyez pas à mes paroles, ben, croyez à mes œuvres. Hein. Je pardonne les péchés, c'est la croix, ben, lève-toi et marche. Fait que les miracles, ça sert à authentifier le messager. Donc, que le message qui est porté vient de Dieu. C'est vrai pour Paul aussi, dans ce cas-ci. Puis, j'aimerais qu'on lise deux versets qui sont pas si évidents que ça dans Marc 16. Puis, je trouvais que l'occasion, on ne passera pas trop de temps dessus, mais je trouvais que le lien avec le passage est quand même intéressant. Marc 16, les versets 17 et 18. Quand on lit ça, des fois, c'est pas super évident, mais... Donc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je voulais qu'on fasse allusion à ce passage-là, juste parce que c'est pas un verset facile, mais on le voit pas, c'est ce qu'il fait. Il saisit un serpent, en tout cas un serpent à la mort, il n'arrive à rien. guérit des malades, impose les mains et tout ça. Donc, ça s'applique bien au passage, mais je voulais juste qu'on soit sûr. Tu sais, les gens, les habitants de cette île-là, ils sont frappés parce qu'ils frappent les yeux, assurément. Ils vont voir des miracles. Mais ce que ça sert ici, les miracles, c'est vraiment authentifier le message de Paul. Puis, ça va donner une occasion à Paul, ça, sur l'île, d'évangéliser les gens qui sont là. C'était peut-être pas prévu dans sa tête d'arrêter là pendant 3 mois sur l'île de Malte, mais le fait de guérir le père de Publius, bon, l'histoire de la vipère, les gens pensent que c'est un dieu, etc., là, mais c'est ça, les gens vont venir à lui pour être guéris. Fait que c'est une occasion à Paul d'évangéliser l'île de Malte. Puis dans la tradition, donc c'est pas dans la Bible, mais dans la tradition, il semble que peu de temps après, il y aurait eu une assemblée chrétienne à Malte. C'est tout à fait vraisemblable, ou vrai, pas vrai, je sais pas, mais c'est tout à fait vraisemblable. Il a passé Paul 3 mois là, donc cette occasion-là, d'évangéliser Dieu, des fois on sait pas son plan, mais Dieu a permis ça quand même là, pendant 3 mois. Donc les gens venaient à Paul pour être guéris du corps, mais aussi partaient avec un remède, on pourrait dire, pour l'âme, qui est beaucoup plus important que guérison temporaire du corps. Donc c'est une occasion que Paul a eue, mais les miracles, ça sert à ça. C'est pas, faut pas mettre notre foi dans les miracles, ça serait un risque. Là. Notre confiance, c'est par la foi. Notre foi en Dieu, c'est pas par la vue. Donc, mais les miracles servent à authentifier un messager et le message. Fait que l'attitude de Paul pendant le voyage, l'attitude sur l'île de Malte, l'aspect serviable, qui veut guérir les autres, ça montre aussi que Paul, il garde pas son ministère pour Rome. Il se soucie pas des épreuves dans lesquelles il est. Il sait qu'il s'en va à Rome. Il sait pas combien de temps ça va se rendre. Ça va prendre avant qu'il se rende à Rome. Mais, tu sais, il est sur l'île. Fait qu'il ne se dit pas, OK, non, moi je m'en vais à Rome, tu sais, mon ministère c'est à Rome, en attendant, j'attends. Il est serviable, il guérit le monde, etc. Il évangélise au bout. Fait que ça, c'était certainement aussi un exemple pour nous, là, de. On peut servir en toutes circonstances. Les circonstances, Dieu sait dans lesquelles, les circonstances dans lesquelles il nous place, puis on peut servir en tout temps. Là. Paul, l'île de Malte, en attendant à Rome, puis il va avoir d'autres occasions aussi, là, on l'a lu, avant d'arriver à Rome. Il profite de toutes les occasions pour servir. Des fois, c'est en ramassant du bois. Des fois, c'est en guérissant des malades. Des fois, c'est en évangélisant. Mais toute circonstance est bonne pour servir Dieu. Puis Paul est un exemple de quel on peut s'inspirer, certainement. Ensuite, on voit dans les... Puis un petit détail d'information aussi. Ils vont passer 3 mois d'hiver sur l'île de Malte. Puis ils vont reprendre le bateau vers Rome. Puis le bateau... Ça, c'est juste une parenthèse d'information. Mais le bateau Diosure... C'est les fils jumeaux de Zeus, ce que j'aurais pas su. On a appris un peu de mythologie grecque et romaine quand on était petit, juste à l'école, mais c'est fils de Zeus, c'est Castor et Pollux. J'avais jamais entendu ça avant de préparer ce message-là. Mais pourquoi je mentionne ça? Là, c'est pas pour s'intéresser à des dieux païens, là, mais parce que leur rôle, eux autres, souvent les dieux, on leur donne des rôles, là, puis même les anges, je pense que les catholiques ont fait ça un peu des fois, mais le rôle de ces deux-là, ça serait de protéger les marins ou de porter chance pendant les tempêtes. Je trouvais ça ironique un peu ici, parce qu'on sait que c'est Dieu qui est en contrôle de tout ça. S'il a permis qu'il y ait un naufrage, mais qu'il n'y a pas personne qui soit mort, mais ça a permis d'évangéliser sur l'île de Malte, etc. Fait que Dieu est en parfait contrôle, Dieu a son plan. Mais c'est un peu ironique que le nom du bateau, ce soit des faux dieux, en tout cas des dieux païens qui sont supposés protéger les marins. Il y a quelqu'un qui est en contrôle, mais c'est Dieu. C'est pas Castor et Pollux. C'est la petite parenthèse à faire. Puis après ça, on voit, j'aurais pu amener une carte, là. Guillaume, souvent, a des PowerPoint, puis j'ai pensé amener une carte. Mais tu sais, si vous vous rappelez, là, votre géographie un peu, là, moi, je l'ai pas amené, j'aurais pu amener une diapo. Mais l'Italie, vous souvenez que c'est comme une forme de botte qui rentre dans la Méditerranée? C'est pas pire, ça fait du sens, tu sais, une forme de botte. Puis au bout de la botte, il y a un ballon, qui est la Sicile. Fait que c'est très visuel, pas besoin d'avoir des PowerPoint, hein, quand on est visuel comme ça. Mais en fait, eux autres, ils vont partir de l'île de Malte, puis ils vont passer entre les deux. Il y a un détroit très très court, très étroit, finalement, un détroit étroit entre la Sicile puis le continent, finalement, puis ils vont reprendre le bateau, puis ils passent par là pour rejoindre Pouzzole. Fait que je n'irai pas plus en détail que ça là-dessus. On voit que, bon, le périple continue, là, on voit des escales, ils vont à Syracuse, qui est en Sicile, donc sur le ballon au bout de la botte, là, l'île de Sicile. Après ça, ils vont aller à Reggio, qui est sur le continent, puis ils vont arriver à Pouzzole, qui est près de Naples aujourd'hui. C'est un port important, puis il reste encore 250 km entre Pouzzole et Rome. Ils vont faire ce bout-là à pied. Puis, entre-temps, on voit, là, ils sont sur le continent. Ils ne sont pas rendus à Rome, ils sont sur le continent. Puis Paul va rencontrer deux groupes de chrétiens, quand même, des frères. C'est des chrétiens qui viennent le voir. Puis ça va donner du courage à Paul. Puis il faut se souvenir dans l'histoire, tu sais, des fois, Paul écrit des épîtres. Puis l'épître aux Romains, Il l'a écrit 10 ans avant le passage. Tu sais, des fois, on pourrait dire l'Épître aux Romains, l'écrit à Rome, etc. Non, non, l'Épître aux Romains, c'est à peu près 10 ans avant. Puis on va lire juste un extrait là-dessus pour montrer le courage que Paul a. C'est parce qu'il avait un désir vraiment, lui, d'aller à Rome un jour. Puis on va juste lire en vitesse, peut-être pas nécessaire d'y tourner, mais deux versets dans Romains 15, versets 23 et 24. Donc l'Épître aux Romains, c'est Paul qui l'a écrit. Dans 15, verset 23. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, il s'adresse aux chrétiens de Rome, j'espère vous voir en passant, quand je me rendrai en Espagne, y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Je trouvais ça intéressant, un, de rappeler que l'Épître aux Romains était déjà écrite, donc c'est pas anodin. Il y avait des chrétiens à Rome à ce moment-là, même si Paul arrive là comme un évangéliste majeur, si je peux le dire. Il y avait déjà des chrétiens là-bas, puis on voit qu'il voulait se rendre à Rome pour faire la volonté de Dieu, mais c'est aussi son désir personnel. Bon, cela dit, pour un homme ou une femme de Dieu, souvent les désirs personnels, c'est égal à la volonté de Dieu. Mais Paul, ça faisait déjà plusieurs années qu'il voulait, puis déjà dans ce qu'on vient de lire dans Romains, ça faisait plusieurs années qu'il voulait y aller. Puis ça fait, il a écrit ça 10 ans avant, donc il voulait vraiment aller voir les chrétiens de Rome. Fait que de voir ces deux groupes-là, là, qui viennent le voir pendant qu'il est en... Ils font le chemin à pied jusqu'à Rome, mais ça lui donne du courage. C'est là, il s'en vient à Rome, puis il ne sait pas ce qui l'attend là-bas nécessairement, mais il sait qu'il y a un rôle. Puis là, imaginez quand même, après tout ce périple en bateau, de voir des chrétiens, c'est vraiment, ça l'a encouragé. Là. Donc, c'est un élément que je voulais mentionner. Puis, une petite parenthèse aussi, on voit que les chrétiens qui viennent le voir à Rome, ils ne se cachent pas, ils ne sont pas persécutés. Puis, je dis ça parce qu'il faut se souvenir que l'empereur qui règne actuellement à Rome, c'est Néron. Puis on sait que Néron, là, il est correct à ce moment-ci, mais tu sais, l'histoire nous dit qu'il devient un peu, disons, pour être poli, un peu cinglé, Néron. Il va mettre le feu à Rome quelques années plus tard, puis il va accuser les chrétiens d'avoir fait ça. Là. L'histoire est connue, Néron, comme les hommes méchants qui ont marché sur la planète, Néron est dans le top 10 peut-être, là. Mais à ce moment-là du passage, il se comporte comme un empereur normal. Fait que les chrétiens, ils peuvent circuler. Là. Puis d'ailleurs, il y a des Juifs à Rome. Là, on ne reculera pas, mais dans Actes 15 ou 16, on se souvient, je pense que c'est Claudius, il avait mis les Juifs dehors de Rome. Là. Fait que là, dans notre passage, il y en a. Fait qu'ils sont revenus, il y a des chrétiens, fait qu'il semble avoir un peu d'accalmie à Rome à ce moment-là. Mais Néron va changer quelques années plus tard. En tout cas, il va perdre quelques éléments dans sa tête, certainement. Puis là, sans aller plus dans les détails, on voit la progression vers Rome, là. Ils s'en vont à Appius, qui est à 64 km, à trois tavernes, qui est une hôtellerie, à 49 km de Rome, puis finalement, il arrive à Rome. Puis à Rome, Paul, on voit, il va être ce qu'on appellerait aujourd'hui une assignation à domicile. On a ça aussi pour certaines formes de détenus en attendant un procès souvent. Fait que lui, il va être capable de se louer un domicile, puis il va être là. Mais il est gardé, puis peut-être ça va changer, mais au début, probablement qu'il était gardé même carrément avec une chaîne, là, parce que un soldat était responsable des prisonniers. Puis s'il perdait le prisonnier, bien, il subissait la peine du prisonnier. C'est pour ça qu'on a lu tantôt, il suggérait de tuer tout le monde sur l'île de Malte. Il dit, tant qu'à perdre les prisonniers, on ne prendra pas de chance, on les tue tout le monde. Fait qu'eux autres, ils seraient corrects comme soldats. Puis ça se défend en termes, tu ne veux pas payer la peine de l'autre, tu le tues. Là. Mais en tout cas, bref, c'est probable qu'il était assigné à domicile, mais probablement enchaîné avec un soldat. Là. Fait qu'il y avait la liberté de recevoir des gens, mais pas de se déplacer. À l'intérieur de Rome. Là. Fait qu'enfin, on voit Paul, malgré toutes les épreuves qu'il y a eues dans les derniers chapitres du livre des Actes, là, il y a eu des tempêtes, un naufrage, là, il est enfin rendu à Rome. Fait que dans tout ça, en fait, dans notre passage, mais dans tout le livre des Actes, on pourrait dire dans toute la Bible, on voit que Dieu a son plan, il est souverain, puis il accomplit toutes ses promesses. Paul est enfin rendu à Rome, puis quand même, ça n'a pas été le chemin tranquille qu'il pensait avoir, mais il est rendu à Rome. Donc voilà, donc c'est la fin de la première partie aussi, puis la deuxième partie, Paul est à Rome maintenant. Puis Paul, son habitude, on le voit, et plusieurs autres étaient comme ça aussi, il va d'abord aller vers les Juifs. Quand il arrive dans une nouvelle ville pour évangéliser, il va d'abord vers les Juifs. Généralement, il va aller dans les synagogues. Dans ce cas-ci, il ne peut pas aller dans les synagogues parce qu'il est assigné à domicile, fait qu'il va faire un peu ce qu'il peut faire, c'est-à-dire qu'il va amener les principaux Juifs vers lui. Lui, il ne peut pas y aller, fait qu'il va les inviter à les rencontrer avec les principaux Juifs. Il va les amener vers lui pour les évangéliser, finalement, pour expliquer sa situation. Mais ça montre aussi une chose, c'est que Paul n'a pas de de ressentiment, là, son amour pour son peuple, les Juifs. Il ne s'est pas refroidi, là, malgré toute la misère, si je peux dire, que les Juifs y ont fait. S'il est là avec des chaînes, c'est à cause des Juifs de Jérusalem. Fait que malgré ça, il aurait pu dire, je vais d'abord vers les païens, parce que les Juifs, vous, hein. Mais non, il va quand même faire comme à son habitude. C'est eux autres qui ont eu les oracles de Dieu, c'est à eux autres que Dieu s'est adressé en premier. Il va d'abord commencer avec les Juifs. Fait que ça montre que son amour pour eux autres, il n'y a pas de rancune. Il a pardonné certainement aux Juifs, puis il va les amener. Parce qu'il faut qu'il clarifie sa situation aussi. Il faut comprendre que Paul, d'abord, peut-être que les gens savent, oh, il était pas pharisien, lui, puis là, il est devenu chrétien, puis là, il se dit messager de Dieu, mais il est enchaîné. Fait que, il faut quand même comprendre sa situation. C'était un messager de Dieu, mais il était enchaîné. Ça méritait clarification quand même. Puis là, il faut savoir, c'est au moins la septième fois dans le livre des Actes qu'il devra un peu résumer sa situation. On n'y tournera pas, mais juste en deux mots pour vous rappeler un peu le contexte. Il a fallu qu'il se justifie devant la foule à Jérusalem, dans Actes 22. À la fin du chapitre 22, il a fallu qu'il se justifie devant le tribun. Après ça, devant Sanhédrin au chapitre 23, devant Félix au chapitre 24, devant Festus au chapitre 25, puis devant Agrippa au chapitre 26. Fait que souvent, il a dû clarifier... Il faut qu'il se défende, là. Il était accusé par les Juifs. Fait que là, devant les Juifs de Rome, il faut qu'il clarifie sa situation. Puis, comme je disais tantôt, les Juifs, il n'y a personne qui a réussi à l'accuser de quoi que ce soit. Là. Il l'accusait contre le Temple, contre les lois romaines, les lois des Juifs, mais c'est pas pour ça. Là. Au contraire, ce qu'il va dire, la raison pourquoi il est enchaîné, pourquoi il est prisonnier, c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. On voit ça au verset 20. Donc, c'est pas parce qu'il a fait un crime quelconque, c'est pas parce qu'il a cherché rébellion avec les Romains ou quoi que ce soit. C'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Puis c'est quoi finalement l'espérance d'Israël? Bien, c'est l'accomplissement des promesses. Puis on l'a vu un peu dans l'adoration ce matin, mais c'est quoi l'accomplissement de la promesse principale que les gens attendaient? C'est la venue d'un Messie. Fait que finalement, c'est l'espérance d'Israël, c'est l'Évangile finalement. Donc, puis ce qu'il va expliquer, c'est à cause de ça qu'il y a des chaînes. Puis on se souvient que les chefs religieux, eux, cette espérance d'Israël-là, croire que le Seigneur Jésus, c'est cette espérance-là qui se confirme, ils ne voulaient rien savoir à Jérusalem. Il y a des personnes qui ont cru dans les Juifs, mais officiellement, comme chefs religieux, ils ne voulaient pas croire à cet évangile-là. Ils n'ont jamais cru que, comme nation, si on veut, que le Seigneur Jésus était le Messie attendu. Mais c'est pour ça, finalement, que puis les Juifs, comme ils ne croyaient pas, ils n'ont pas voulu le relâcher. Et c'est pour ça que Paul a dû en appeler à César. Et c'est donc pour ça, à cause de l'espérance d'Israël et de l'Évangile, que finalement, il est arrivé à Rome puis qu'il y a les chaînes. Et c'est ça son message, pareil. Là. C'est à cause de l'espérance d'Israël qu'il y a des chaînes. Puis ce que ça nous montre, au moins, quand même, dans l'attitude des Juifs de Rome, contrairement à ceux de Jérusalem, c'est qu'au moins, ils veulent l'entendre quand même. Ils vont passer une journée avec lui, pour que Paul les évangélise, basé sur l'Ancien Testament, mais ça, il va passer une journée avec eux autres. Souvent, les Juifs de Jérusalem, ils ne voulaient rien savoir. Là. On se souvient avec Étienne, entre autres, là, Étienne qui expliquait ça, puis il m'amenait à la fin, il se mettait à crier, puis à se boucher les oreilles, tellement qu'il ne voulait rien entendre de ce qu'Étienne disait. Au moins, les Juifs de Rome acceptent de passer une journée avec. C'est déjà mieux. Donc, ils passent une journée à leur expliquer, mais là arrive ce que malheureusement arrive souvent. Je relis le verset 24. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent point. C'est souvent ce qui arrive, c'est ce que notre frère tantôt mentionnait aussi. Il y en a qui vont finir par croire, mais il y en a qui ne croiront pas. C'est la même chose chez les Juifs. Puis pourtant, ils connaissaient très, très bien l'Ancien Testament, les Juifs. Vous leur donnez ça, ils connaissaient très bien l'Ancien Testament, fait qu'ils auraient dû être les premiers à reconnaître le Messie. Puis il y en a qui ont cru, mais de façon officielle, les chefs, ils ne croiront pas plus. Malgré ce que Paul va dire. Puis là, arrive un constat très triste. Paul va citer des versets d'Ésaïe. C'est dans Ésaïe 6, versets 9 et 10. Mais on peut les relire d'ailleurs les versets 26-27. C'est un constat quand même triste sur les Juifs. Là. Ils auraient dû être les premiers. Ils connaissaient tout l'Ancien Testament. Le Seigneur Jésus, puis en une journée, il a dû en dire des affaires là, sur qu'est-ce que le Seigneur Jésus accomplit comme promesse, là, comme prophétie, puis tout ça. Là, en une journée, il t'en dit des affaires. Puis en plus, lui, il n'avait pas besoin de donner beaucoup de contexte. Tout le monde qui était réuni là connaissait très bien l'Ancien Testament. Fait que malgré tout, le constat, ça va être « Va vers ce peuple et dis, vous n'entendrez point, vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. » Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est un constat très triste quand même qu'il y a. Donc, c'est les personnes qui entendent l'Évangile, il y a un rôle à ça, parce qu'il y a un jugement qui vient à ça. Fait que quelqu'un qui n'y croit pas, ben, il va être jugé de ça, de ne pas y avoir cru. C'est le constat, donc, contre eux autres. Ils étaient les premiers, puis ils ne l'ont pas accepté. Mais après ça, Paul va faire, et puis il va leur dire, comme il a fait dans les autres villes, il va d'abord vers les Juifs, puis quand ça ne marche pas, ben, il s'en va vers les païens, qui, eux, l'entendront. Ça ne veut pas dire que tous les païens vont croire, mais il va se rendre vers eux autres. Donc voilà, fait qu'en plus de prêcher, Paul va passer 2 ans en prison, puis en plus de prêcher puis d'enseigner, Paul va écrire des épîtres en prison. On les appelle les épîtres de la captivité. Petite question comme ça, est-ce que quelqu'un se souvient, il y a 4 épîtres pendant ces 2 ans-là que Paul va écrire en prison. Quelqu'un veut se risquer pour les mentionner, les 4? Non? Vous le savez. Comment? T'en as une. T'en as deux. T'as besoin de soutien, hein? T'es rendu à 3. Là, on t'a fini pas par rien, par exemple. C'est Philémon. Puis, je vous disais ça comme ça, mais il va les écrire. Fait qu'il va passer 2 ans en prison. Il va écrire ces 4 épîtres-là. Donc, Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon, qu'on appelle souvent les épîtres de la captivité, là. Puis, nous autres, à Sainte-Foy, je suis pas sûr que c'est à cause de ça, mais on va lire Éphésiens. Puis, tant que ça, probablement qu'on va faire les 4. Je suis pas sûr qu'on a pensé à ça là, comme suite, mais ça donne comme ça. Donc, c'est intéressant, là. Donc, il va écrire ces 4 épîtres-là. Puis, ça nous dit une autre chose. C'est qu'il n'y a aucun lieu, aucun moment, aucune épreuve dans laquelle on ne peut pas servir Dieu. Là, parce que là, lui, dans ces 2 ans-là en prison, il continue de recevoir des gens et d'évangéliser. On le voit, prêchant et enseignant le royaume de Dieu. Puis, il va écrire des épîtres. Fait que même s'il est en prison, puis c'est pas un cachot incroyable, là, ça va s'empirer dans son cas dans les années suivantes, mais il est comme dans un domicile, fait qu'il peut servir Dieu. Fait qu'il n'y a aucun moment, aucun lieu, aucune épreuve dans laquelle on ne peut pas servir Dieu. Paul va en profiter, lui, pour faire toutes ces choses-là. Puis fait que l'histoire nous dit qu'en fait, il va faire 2 ans en prison, puis visiblement, il va être relâché. On n'a pas d'indication sur le procès. Il est assurément jugé non coupable, mais ce qui est fort probable, c'est que les accusateurs, donc les Juifs de Jérusalem, se sont pas rendus au procès. Puis à l'époque, quand les accusateurs n'étaient pas là, ils étaient considérés comme innocents, là. Donc, c'est probablement pour ça qu'il va être relâché 2 ans après. Puis l'histoire nous dit qu'il va reprendre des voyages missionnaires, va écrire d'autres épîtres, puis il va être emprisonné de nouveau plus tard, sous Néron, puis il va être décapité en 67-68 environ, Paul. Mais à ce moment-ci de l'histoire, ça ne sera pas la fin pour lui. Il va être relâché après. Puis il va continuer quelques voyages, probablement en Espagne aussi, écrire des épîtres. Il va retourner en prison, puis là Néron commence à devenir un peu plus dingue, puis il va être décapité, là. Donc, c'est ce que l'histoire nous dit. Puis juste pour Paul, on peut lire, pas nécessaire d'y tourner non plus, là. Je vais aller dans 2 Timothée 4, versets 6 et 7, pour voir la fin de la vie de Paul. Le livre des Actes, le but, c'était pas de montrer la vie de Paul. Mais on l'a par la tradition orale, puis on l'a par ses épîtres aussi, comment Paul va finir quelques années plus tard. Donc, dans 2 Timothée 4, c'est ses derniers écrits, sauf erreur, là. 2 Timothée, c'est sa dernière lettre qui est écrite. Donc, dans les dernières choses qu'il va dire, 2 Timothée 4, versets 6 et 7, c'est Paul qui parle à Timothée. « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. » Puis il va donner un constat malgré toutes les épreuves qu'il y a eues. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Donc, Paul va finir un peu plus tard, puis là, il sait que ça achève. C'est un deuxième emprisonnement qui arrive plus tard. Donc en fait, comme je disais, la fin de la vie, on a eu dans le livre des Actes, là, souvenez-vous, il y a eu plusieurs grands hommes, grandes femmes. Il y a eu Paul, il y a eu Pierre, il y a eu Barnabas, Philippe. Étienne, on a la fin pas mal, mais le but du livre des Actes, c'est pas de montrer la vie de ces hommes-là. C'est de montrer l'expansion de l'Évangile. C'est pour ça que, puis en fait, on l'a vu dans le livre des Actes, ça commence, puis dans l'histoire, ça commence à Jérusalem, en Israël, après ça, les grandes villes du monde, comme Antioche, Éphèse, Rome, vont recevoir l'Évangile. En Éthiopie aussi, avec l'eunuque éthiopien, là. Donc, tu sais, les grandes villes du monde commencent à être évangélisées. Puis, en fait, ça, juste ça, là, le constat du livre des Actes, c'est à peu près les 30 premières années de l'Église. Sur les 28 chapitres, c'est à peu près 30 ans, 30 premières années de l'Église. Puis, juste ça, là, tu sais, c'est pour nous qui disons ça aujourd'hui, ça devrait nous fortifier parce qu'on voit le plan de Dieu. On voit que c'est Dieu qui dirige puis qui bâtit son Église. Puis, on a les résultats de ça sur 30 ans. Mais quelqu'un pourrait dire, ouais, ça finit un peu abruptement le livre des Actes. Parce que, comme je disais, le but du livre des Actes, c'est de montrer l'expansion de l'Église. Ça finit abruptement juste parce qu'il y avait, tu sais, l'Écriture, la fait, je peux dire, le livre des Actes s'écrit encore, entre guillemets, dans le sens que l'expansion de l'Église existe encore aujourd'hui. Ça semble finir abruptement, mais c'est parce que l'histoire de l'Église s'écrit encore. Là. C'est pour ça que ça s'est terminé là, mais ça se continue encore aujourd'hui, puis on en fait partie. Puis juste avant d'arriver aux leçons, j'ai noté un commentaire, je pense que c'est McDonald's, celui-là. Je n'ai pas noté de qui, mais mettre sa foi en Jésus-Christ pour faire partie intégrante de l'aventure incomparable, si magnifiquement décrite dans le livre des Actes, voilà le défi qui est lancé au lecteur contemporain. Le même Seigneur Jésus et le même Esprit sont toujours à l'œuvre pour accomplir les desseins de Dieu dans la vie des hommes. Je trouvais ça intéressant pour compléter le livre des Actes de dire ça. Fait qu'on a tous un rôle dans l'expansion de l'Évangile, mais c'est à nous de prendre notre place finalement dans l'expansion de Dieu. Si on sait que l'expansion de l'Église de Dieu, donc on sait que c'est Dieu qui dirige, on a des dons, mais c'est à nous de prendre la place dans cette histoire-là qui continue de s'écrire encore aujourd'hui, si je peux dire. Donc voilà, j'ai trois leçons pour terminer. La première, prêcher et enseigner. On va relire le verset 31, qui est le dernier verset du livre des Actes, où on nous dit, « Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. » Donc moi, c'était l'idée du prêcher et d'enseigner que je voulais retenir aussi comme leçon. Tu sais, c'est le rôle essentiel de l'Église, puis c'est l'objectif ultime du livre des Actes, comme je disais tantôt, c'est de montrer l'Évangile, comment il s'est répandu dans le monde, puis encore aujourd'hui. Fait que le but premier, c'est ça, du livre des Actes, puis notre rôle à chacun de nous, c'est d'être des instruments dans les mains de Dieu pour participer à son œuvre. Puis ça, cela dit, on a chacun un don. On n'est pas tous des Paul. Le Paul, il a eu une vie, c'était pas évident, puis il était devant des nations, souvent les chefs, puis il passait devant des rois, etc. Mais on n'est pas tous des Paul, mais on a tous un don. Mais dans tout le livre des Actes, on voit qu'il y a beaucoup de personnes, juste dans la vie de Paul, il y a énormément de monde qui ont appuyé Paul. Quand ça brassait beaucoup, il y a beaucoup de gens qui ont exercé l'hospitalité, entre autres. Il y en a un qui allait le voir en prison. Il y en a un qui l'accompagnait au moins souvent, Luc, qui était son médecin personnel. Il y en a un paquet qui ont prié pour lui. Là. Mais tout ça, c'est participer au même ministère que Paul avait. Là. Fait que prière, hospitalité, encouragement, visite en prison, toutes les choses que les gens ont fait, mais qui participent exactement au même ministère que Paul. Là. Fait que des fois, lui, Paul, c'est lui qui était comme en avant souvent, mais on n'a pas besoin d'être tout le temps en avant. Là. Si on appuie ces personnes-là, c'est le même ministère. Puis juste avec la prière, on peut participer à tous les ministères du monde. Fait que c'est une des choses que j'aimerais qu'on retienne. Donc, le rôle numéro un qui a été marqué là, donc prêcher, enseigner le royaume. Donc, c'est l'expansion de... C'est Dieu qui dirige son Église, mais on a chacun des dons. Ils ne sont pas les mêmes. On a chacun un, distribué par le Saint-Esprit. Fait que mettons-le à la contribution de l'œuvre de Dieu, finalement. Là. Donc, ça, c'est la leçon 1. Leçon 2... Dieu accomplit toutes ses promesses. Je pense que c'est certainement quelque chose, en fait, pour notre passage, pour le livre des Actes, puis finalement, pour toute la Bible au complet, ce sera une leçon pour toute la Bible. Dieu accomplit toutes ses promesses. C'est clair que Dieu a un plan. C'est clair qu'il est en plein contrôle. On le voit dans notre passage, on le voit, il voulait que Paul aille à Rome et tout ce qui s'est passé entre-temps. Donc, Dieu a un plan, puis il accomplit toutes ses promesses. Toutes les promesses de la Bible, ceux qui sont réalisés, on le voit. Il y en reste qui ne sont pas réalisés, mais on peut avoir la certitude qu'il va le faire aussi. Juste quelques exemples du livre des Actes de promesses accomplies très rapidement. Il va dire, on n'y tournera pas dans Acte 23, d'envoyer Paul à Rome, il va le dire souvent. C'est depuis l'Acte 23, donc c'est arrivé souvent, qu'il va témoigner devant des rois et, ou des gouverneurs. Là. Il l'a fait pour les deux cas, il l'a promis à Paul. Puis il a dit aussi tout ce qu'il allait devoir souffrir pour mon nom. Déjà, dès l'acte 1 aussi, une promesse qui a été dite, c'est l'Évangile qui va être annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Au début des Actes, c'est juste en Israël, mais ça, c'est une autre promesse qui est accomplie dans le livre des Actes. Les grandes villes du monde, là, c'est rendu presque partout, dans le nord de l'Afrique, c'est rendu à Rome, puis en Italie, etc., donc en Europe. Donc, à peu près tous les continents sont touchés, rendus là, bon, l'Amérique, je ne sais pas, mais probablement pas, mais on voit l'expansion. Là. Fait que... Dieu accomplit toutes ses promesses. Juste dans le livre des Actes, on a vu un paquet de choses qui sont accomplies. Puis moi, le petit parallèle que je pensais en regardant tout ça, je faisais le parallèle, nous autres, où on s'en va, puis Paul, pour son voyage vers Rome, là, Paul savait qu'il allait à Rome. Comme nous, on sait qu'on s'en va avec le Seigneur. Ultimement, notre destination finale, on le disait tantôt, d'hériter la vie éternelle, notre destination finale, c'est au paradis. Disons qu'avant, il va y avoir un petit séjour dans le millénium, etc. Mais on va être avec le Seigneur bientôt, c'est notre destination finale. Mais moi, le parallèle que je faisais avec Paul, Paul savait qu'il irait à Rome. Il ne savait pas c'était quoi le voyage entre les deux. Ce serait-tu un voyage court? Ce serait un voyage avec... Ça va super bien aller, ça va, on prend le bateau, puis on arrive là en quelques semaines, puis on est rendu. Dans son cas, il y a eu des tempêtes, des naufrages, il y a eu une escale de 3 mois, mais nous, c'est la même chose. Ça va être quoi notre vie? On va être avec le Seigneur bientôt. On ne sait pas quand. Quelques jours, quelques années, ça va-tu être un beau petit chemin tranquille? Ou il va-tu avoir bien des tempêtes, des naufrages? Ça, on ne sait pas. Mais il y a une chose qu'on sait, sachant, avec toute la Bible, entre autres notre passage, puis le livre des Actes, puis la Bible au complet, sachant que Dieu a son plan, qui est en plein contrôle puis accomplit toutes ses promesses, bien, ça devrait nous fortifier puis nous encourager. Hein. Parce qu'il nous a promis de savoir où on s'en va, puis il nous a promis, qu'on l'a dit tantôt aussi, qu'il va être avec nous en attendant qu'on soit avec lui. Fait que sachant ça, qu'il est en contrôle de tout puis qu'il connaît notre situation, bien, on devrait vraiment être encouragé de ça. Donc ça, c'est la leçon, j'ai envie de dire, principale du passage. Dieu accomplit toutes ses promesses puis ça devrait nous encourager. Troisième leçon, j'aimerais qu'on pense aux quelques exemples du livre des Actes comme exemple de consécration. On a pensé à Paul aujourd'hui, mais il y a eu d'autres personnes dans Actes. Souvenez-vous, il y en a un paquet d'autres. Pierre, Barnabas, Philippe. Mais toutes ces personnes, puis il y avait des dames aussi qui ont été nommées dans le livre des Actes, mais toutes ces personnes-là avaient au moins un trait de caractère commun. C'était que leur vie était centrée sur Christ. Ça, c'est un exemple que toutes ces personnes-là avaient. Puis malgré les épreuves, c'est sûr qu'aujourd'hui, les épreuves, les tribulations, on en a encore. Tu sais, d'être entouré de personnes qui sont malades, qui meurent, tout ça, on en a aussi aujourd'hui. Mais en termes de comment dire, pour notre foi, tu sais, nos tribulations, nos persécutions, ça n'a rien à voir avec ce que ces personnes-là ont vécu. Là. Mais malgré ça, leur consécration, c'est un exemple considérable pour nous. Fait qu'en terminant, j'ai noté un autre petit commentaire. Je pense qu'il close bien le livre des Actes, notre passage. Donc, enfin, voici une dernière conviction durable qui découle de l'étude du livre des Actes. Si seulement nous suivions nous-mêmes l'exemple de l'Église primitive dans le domaine de la foi, du sacrifice, de la consécration et de service inlassable, le monde pourrait être évangélisé en notre génération. Je pense que ça résume bien le livre des Actes. Donc, juste avant de prier, je rappelle les 3 leçons principales. L'idée de prêcher, d'enseigner, notre rôle dans l'expansion de l'Évangile ou de l'Église. C'est Dieu qui dirige, mais on a un rôle, on a un don, il faut le mettre au profit du Seigneur. Finalement, c'est lui qui nous le donne, mais il faut lui remettre si on veut. La deuxième, Dieu accomplit toutes ses promesses, fait qu'on ne connaît pas le chemin pour se rendre jusqu'à lui, court, difficile, on ne sait pas, mais on sait qu'il est avec nous, puis on va être avec lui bientôt, puis il nous accompagne jusqu'à temps qu'on soit là, donc ça devrait nous fortifier, nous encourager. Puis troisième leçon, pensons à ces exemples-là de Paul, entre autres, mais comment il était consacré, puis que ça nous serve aussi de leçon. Donc voilà, je m'arrête là-dessus, je vais prier en terminant. Père Tout-Puissant, on est vraiment reconnaissant d'avoir, comme c'était dit ce matin, de pouvoir ouvrir tes Écritures ensemble. On a pu t'adorer ce matin en toute liberté. On peut étudier ta parole, Seigneur, et te remercie aujourd'hui pour ce passage de ta parole dans le livre des Actes. Parce que tu nous parles, Seigneur, tu nous donnes des choses, entre autres, tu nous confirmes que tu accomplis toutes tes promesses. Tu le fais pour Paul, tu le fais pour, mais tu vas le faire pour chacun de nous. Tu connais nos situations, tu connais le chemin qu'il y a entre toi et nous. Est-ce que c'est un chemin court, difficile, on ne sait pas. Mais tu es avec nous, Seigneur, dans chacune de nos épreuves, dans chacune de nos situations. Alors vraiment, on veut être encouragé, Seigneur, par ce passage, en sachant que bientôt, on va être avec toi. Puis qu'en tout temps, on peut s'appuyer sur toi, avoir confiance en toi en toutes choses. On est sauvé, puis il n'y a personne qui peut nous séparer de toi, Seigneur. Alors, on est vraiment reconnaissant. Puis, Seigneur, on voudrait utiliser aussi ces quelques personnes-là, Paul entre autres, mais à quel point ils étaient consacrés, à quel point leur vie était centrée sur toi. On a beaucoup à apprendre de ces personnes-là. On est dans un monde où il y a beaucoup de distractions, beaucoup de petits plaisirs qui peuvent qu'on porte les regards autrement que juste sur toi. Mais ces personnes-là, dans le livre des Actes, leur désir personnel, c'était de faire ta volonté et que ça nous serve d'exemple, Seigneur, vraiment. Alors, merci pour ce passage et qu'on mette maintenant en pratique les choses qu'on entend. Aussi, je voudrais te prier pour l'Assemblée de Sainte-Marie. Seigneur, c'est une joie d'être ici pour nous et on voudrait vraiment prier pour cette Assemblée, que tu continues, Seigneur, à avoir un flambeau dans cette région, Que tu bénisses tous et chacun de mes frères et sœurs de l'Assemblée de Sainte-Marie, Seigneur, et au nom de ton Fils qu'on prie. Amen. Alors voilà, bonne